Chapitre 10. Une inquiétante promenade. Inutile de préciser que là, j'ai eu envie de prendre mes jambes à mon cou et de disparaître au fond des bois. Mais j'ai fait un effort sur moi-même et j'ai demandé à la valise de m'expliquer ce qu'elle entendait par là. « C'est à la fois simple et compliqué, a-t-elle répondu. Sache une fois pour toutes que les géants ne sont pas fabriqués comme les humains. À l'intérieur de leur corps, tu ne trouveras ni squelette ni organes d'aucune sorte. Ils ne possèdent ni os, ni sang, ni cervelle, ni boyau. C'est clair ? Alors ils sont creux, me suis-je étonné. Vite comme une tirelire ? Pas tout à fait, non. L'intérieur de leur corps est une sorte de paysage. Tu comprendras mieux quand tu t'y seras faufilé. Je serai là pour te guider, c'est à ça que je sers. Il faut vraiment que j'entre dans sa tête, pourquoi ? Pour désamorcer sa colère. C'est la seule façon de l'empêcher de piétiner le village et d'écraser ses habitants. Le géant est une sorte de bombe à retardement. Tu as bien compris que rien ne pourrait plus empêcher la réveilleuse de le tirer du sommeil, non ? Vous n'avez pas réussi à lui confisquer la seringue, c'est tant pis. Il faut maintenant passer au plan B. Une fois à l'intérieur du géant, tu pourras neutraliser l'effet de la piqûre. Ce sera comme si la réveilleuse lui injectait de l'eau de source. Son intervention restera sans effet. Tu vas travailler de l'intérieur à désamorcer la bombe. Si tu échoues, le colosse se réveillera et sautera à pieds joints sur le village. Je commençais à y voir un peu plus clair. De toute manière, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Il y avait déjà eu assez de catastrophes comme ça. Mathilda m'a regardé d'un air bizarre. « Tu vas le faire ? » m'a-t-elle demandé. « Tu vas entrer dans la tête du géant ? Moi, il faudrait me payer cher. » Alors que nous sortions de la forêt, nous avons aperçu le nain Léopold qui se dandinait au bord de la rivière. Il nous a jeté un regard ironique et s'est mis à ricaner. « Tu as vu ?» a chuchoté Mathilda. « Il attend la réveilleuse. Quand elle sortira de l'eau, il la guidera jusqu'au géant. » Il attend ce moment-là depuis longtemps. Depuis qu'il est devenu tout petit, il ne rêve que de se venger des humains. Nous avons pressé le pas. La sorcière noire se déplaçant lentement, nous disposions d'une légère avance. À condition de ne pas lambiner, je pouvais la prendre de vitesse. Quand nous sommes arrivés au pied du trône de granit, Mathilda a frissonné. « Pas question que je t'accompagne, » a-t-elle bredouillé. « J'ai trop la trouille. » « Je viens à peine de redevenir jeune. Je ne veux pas gâcher cette deuxième chance en mourant avant terme. Je te souhaite de réussir. Moi, je vais faire mes paquets et m'enfuir le plus loin possible. » Elle m'a rapidement embrassé sur les joues et s'est carapatée à toutes jambes. Léopold, qui nous observait, a éclaté de rire. « Je sais ce que tu vas essayer de faire, » m'a-t-il crié. « Ça ne marchera pas. Le géant n'a pas d'organes, mais il est rempli de systèmes de sécurité qui te neutraliseront dès que tu seras dans son crâne. »« Ne l'écoute pas, » a ordonné la valise. « Escalade plutôt le trône, le temps presse. » J'ai inspiré une grande bouffée d'air, j'ai lancé la mallette sur les genoux du colosse endormi, puis j'ai empoigné ses vêtements pour me hisser jusqu'à son oreille. Ça n'a pas été facile. J'avais peur qu'il ne se réveille en sursaut et m'écrase comme un moustique. Après les vêtements, je me suis cramponnée à sa barbe, dont les poils étaient aussi épais que des cordages de navire. Le souffle brûlant qui s'échappait d'entre ses lèvres passait sur moi, me chauffant la figure. En plus, il avait mauvaise haleine. Un moment, j'ai eu peur de finir asphyxié, sans rire. L'escalade a pris fin quand j'ai réussi à me hisser sur son épaule. Son oreille était là, béante comme une caverne, au milieu de la broussaille des cheveux grisonnants. J'ai hésité. Faut vraiment que j'entre là-dedans? Ai-je gémi à l'adresse de la valise. Oui, a-t-elle répondu. Dépêche-toi. Chaque seconde perdue permet à la réveilleuse de se rapprocher de nous. Bon, je n'avais pas le choix, hein. J'ai rassemblé mon courage et j'ai marché vers l'entrée de l'énorme oreille. C'était comme une caverne, mais une caverne de chair. Vous voyez le genre? On n'y voyait pas à 3 mètres. J'ai fait 10 pas là-dedans, le sol était en pente. Au 11e pas, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. À croire que je dévalais un toboggan. Je n'ai pas lâché la valise. Soudain, des lumières ont brillé dans l'obscurité et j'ai touché ce qui semblait être un trottoir. Époustouflée, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu des maisons, des réverbères. J'étais dans une ville construite à l'intérieur du géant. « Ne fais pas de bruit », a conseillé la valise. « Comme tu peux t'en rendre compte, ici c'est la nuit. » Normal, puisque le géant dort. Je n'en revenais pas. Je me suis redressée, j'ai compris que le corps du colosse était creux, mais organisé à la manière d'un paysage, avec ses collines, ses précipices. Au lieu de veines, d'artères, il y avait des rues, des tunnels, des ponts. Devant moi, au bord d'un gouffre sans fond, se dressait une grande bâtisse de pierre grise. Aucune lumière ne brillait derrière les fenêtres. Une porte cloutée en défendait l'accès. Au-dessus, un écriteau annonçait « Château de la Pensée ». J'ai demandé « C'est quoi ?»« Tu contemples en ce moment le cerveau du géant », a murmuré la valise. « Approche-t'en et jette un coup d'œil par l'une des fenêtres. » J'ai avancé de 10 pas. Mes semelles résonnaient un peu trop fort sur le trottoir. J'ai fait la grimace. Cette ville déserte plongée dans le noir avait quelque chose d'inquiétant, d'irréel. Le château de la pensée ressemblait à une prison. Je n'avais guère envie de le visiter. J'ai collé mon nez contre la vitre. J'ai vu des bureaux, des étagères surchargées de dossiers, sur lesquels était écrit « Décision à prendre, hésitation, illusion, rêve, mauvais souvenir, cauchemar. » Il y avait des tonnes de paperasses et des employés qui dormaient, effondrés entre les bras de leur fauteuil ou la tête carrément posée sur la table. « C'est le somnifère », a expliqué la valise. « Ils sont tombés foudroyés. » C'est ici, dans ce bâtiment, que sont prises les décisions déterminant les actions du géant. Quand le personnel dort, tout s'arrête. Ensuite, la mallette m'a ordonné de m'approcher de la rambarde surplombant le précipice pour regarder en bas. J'ai compris que ce gouffre immense, c'était la poitrine du géant. Un vent glacial y circulait. Je n'ai aperçu ni cage thoracique ni poumon. C'était plutôt une immense caverne avec, çà et là, des promontoires où se dressaient de nouvelles maisons. Des passerelles branlantes permettaient de se déplacer au-dessus du vide. « Regarde à gauche !» a soufflé la valise. J'ai vu une sorte d'usine avec des cheminées, des tuyaux, des machines pleines de roues dentées. Une inscription peinte sur l'un des murs annonçait « Centre de manœuvre du bras gauche ». J'ai tourné la tête de l'autre côté. Juste en face se dressait une deuxième usine, le centre de manœuvre du bras droit. Je me suis approché de l'un des bâtiments pour lorgner par une fenêtre. Il était plein d'ouvriers endormis, des ouvriers barbouillés de graisse aux mains noires. Partout, ce n'était que chaînes, poulies, engrenages. D'accord, ai-je marmonné, j'ai compris. Ce sont ces usines qui font bouger les bras du géant, exact ?
Exact.
Et il y en a d'autres pour les jambes ?
Oui.
Et encore une pour l'estomac ?
Bien vu.
Je me suis assise au bord du trottoir pour me donner le temps de faire le point. J'étais assez décontenancée, vous l'imaginez. Je ne m'attendais pas à un truc pareil. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais appris en classe de sciences naturelles. Mais bon, pourquoi s'étonner ? On aborde rarement le sujet des géants en classe de sciences naturelles. C'est d'ailleurs, à mon sens, le grand défaut de cette matière. Il faudra en parler aux gens de l'éducation nationale. J'ai frissonné. Autour de moi, la ville dormait. Dans chaque maison, les employés, les ouvriers, préposés au bon fonctionnement du colosse, avaient été foudroyés par le somnifère, badigeonnés sur les pommes. Du coup, tout avait cessé de fonctionner. Assise au bord du vide, j'avais le vertige. « Si tu regardes au fond du gouffre, » a repris la valise, « tu verras un long tuyau de cuivre qui relie la bouche du géant à l'usine de retraitement de la nourriture qui lui sert d'estomac. Tout ce qu'il avale dégringole dans une cuve en bas. Les ouvriers font bouillir cette nourriture pour la transformer en énergie. Cette énergie alimente ensuite les différentes usines qui lui permettent de marcher, de bouger.
« Ça va, » ai-je grogné. « J'ai compris le principe.
Dis-moi plutôt ce que je dois faire. Cet endroit me flanque la chair de poule.
C'est parce qu'il y fait nuit.
Si le géant avait les yeux ouverts, la lumière du jour nous illuminerait. Je n'avais pas envie que la mallette m'inflige un nouveau cours de sciences nat. J'avais trop les nerfs. Ta mission consiste à saboter les installations qui permettent aux géants de se mettre en colère, à enfin daigner révéler la valise.
Si tu y parviens, le colosse deviendra doux comme un agneau. Et lorsque la réveilleuse lui injectera l'élixir destiné à combattre les effets du somnifère, le produit n'aura pas de conséquences désastreuses, puisque notre colosse sera désormais incapable de la moindre réaction violente.
J'ai hoché la tête. Effectivement, ça paraissait un bon plan. Et où se trouve le centre de la colère, ai-je demandé.
Aucune idée, a répondu la mallette.
Pour le savoir, tu devras forcer la porte du château de la pensée et dénicher une carte qui l'indique.
Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Ça aurait été trop simple.
J'ai bondi sur mes pieds. Je n'étais pas ravie de ce que je venais d'apprendre. Tout avait beau dormir autour de moi, je ne me sentais pas en sécurité. Mon instinct me soufflait que j'étais en danger. Un danger dont j'ignorais la nature, mais qui rôdait, invisible. Je me suis éloignée du gouffre pour revenir sur mes pas. « Fais bien attention de ne réveiller personne, » a chuchoté la valise. « Si un seul d'entre eux sort du sommeil, il s'empressera de secouer ses copains. Très vite, ils seront 10, puis 20, puis 30 à vouloir se remettre au travail. Dès qu'il y aura assez de monde, le château de la pensée reprendra ses activités et le géant se réveillera. Ça ne m'emballait guère. Pour couronner le tout, la mallette a ajouté « Ne te fais pas repérer. S'ils te voient, ils te prendront pour un corps étranger, un virus venu infecter le géant. Dès lors, ils n'auront plus qu'une idée, te détruire. Ils lanceront à tes trousses leurs soldats nettoyeurs.
« Merci de me prévenir, » ai-je grogné. « Mais j'aurais préféré le savoir avant de m'embarquer dans cette aventure. »
J'ai utilisé la valise pour briser un carreau,
Puis j'ai passé la main à travers le trou pour manœuvrer la poignée de la fenêtre. Dans le silence de la nuit, le bruit m'a semblé assourdissant. L'estomac noué, j'ai enjambé le rebord pour me laisser glisser dans le bureau. Affalé sur les tapis, au milieu des feuilles de papier éparpillées, les employés dormaient. En m'approchant, j'ai constaté qu'ils n'avaient pas réellement de visage au sens où nous l'entendons. Seulement deux petits points noirs pour les yeux et deux petits trous pour les narines. Mais pas de bouche! Sans doute n'avaient-ils pas besoin de manger. Ce n'étaient pas des êtres humains, plutôt des créatures à la peau très pâle, sans cheveux ni sourcils. Ils étaient habillés de vêtements d'un autre siècle, des redingotes avec des bas et des chaussures à boucles. Certains portaient même des perruques poudrées. Sur le bureau, il y avait des encriers et des plumes d'oie, comme dans les films historiques. J'ai commencé à les enjamber pour explorer la bâtisse. J'avais une trouille de tous les diables que l'un d'eux ne se réveille et ne m'attrape la cheville avec son horrible petite main blanchâtre.